machine.
Comment ?
Tu veux qu'il coupe sa machine le temps que...
Non, c'est bien, ça fait partie
Ça fait partie du décor.
Qu'est-ce qui se passe là devant nous ?
Eh bien, ils sont en train de faire le terrassement, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le terrassement de l'entrée de la Bastide. Donc, ils nous mettent du macadam pour qu'on ait un accès à peu près correct. On est en face d'un bâtiment immense avec des briques rouges, des volets en bois rouge avec des fenêtres immenses. Et c'est juste énorme et magnifique en fait.
Ça va s'appeler comment ?
Le château en santé.
Historiquement, il s'appelait la Villa Valcorm, mais tout le quartier, tous les gens du quartier l'appellent le château. Et on a une vision assez incroyable du quartier. Donc on a la vue sur les bâtiments de Caliste.
Alors c'est des bars HLM, enfin des bars de cité quoi. En face de nous, on en a deux et sur le côté, on peut en apercevoir une grande aussi sur le côté gauche.
Je m'appelle Ségolène, je suis médecin généraliste. Je suis médecin déjà diplômée depuis 2012.
Alors moi, je m'appelle Méral, je suis aide-soignante accueillante. Avant ça, je travaillais surtout en milieu hospitalier.
Je suis médecin déjà diplômée depuis 2012, mais le projet en fait, de ce centre de santé, il a débuté même avant la fin de notre internat. À la base, on est une petite bande de professionnels de santé. Du coup, au début, on était plutôt dans un échange de tout ce qui nous allait, tout ce qui nous allait pas, de réfléchir un petit peu sur l'éthique de notre profession, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ok, on n'est pas forcément content, et du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et du coup, on a commencé un petit peu à rêver des conditions idéales qu'on imaginait pour faire notre métier, et puis de penser un peu ce qui pouvait émerger de cette énergie collective qui était assez chouette. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée de créer un centre de santé communautaire, c'est-à-dire un centre de santé où on soit plus dans le prendre soin que dans le soin, où on considère les questions de santé comme quelque chose de très général, et où ce soit un lieu aussi où les habitants, usagers, patients, soient complètement au centre de la prise en charge et au centre du fonctionnement de la structure.
Et voilà.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance.
On savait que notre projet, qui se voulait du coup social, allait être potentiellement dans des zones déjà un petit peu désertifiées au niveau de l'accès aux soins, donc à des endroits sans médecins. Et puis du coup, potentiellement dans une zone aussi pauvre, enfin précaire de la ville de Marseille, parce qu'on sait que malheureusement, les médecins généralistes ont tendance à s'installer plutôt dans des... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de médecins dans les quartiers sud de Marseille, et donc on voulait que ce soit aussi choisir un lieu qui soit aussi utile en termes de démographie médicale. Et du coup, on s'est questionné sur les quartiers nord, ou sur le 3e arrondissement de Marseille. Et à l'époque où on a commencé nos démarches, ce serait peut-être plus vrai maintenant. On nous a dit qu'il y avait vraiment plus de besoins à Caliste, Granière, Solidarité, que dans le 3e. Les gens qui vont être dans le centre de santé, donc il y a des médecins généralistes, il y a des infirmiers, il y a des médiateurs santé, il y a notamment Fatima, qui est médiatrice santé dans le quartier, originaire du quartier, depuis déjà bien une dizaine d'années, qui est originaire des Comores, et donc qui va pouvoir faire du lien avec les communautés comoriennes et qui va rejoindre l'équipe.
Alors, moi, personnellement, il y a un festival de la femme kurde qui se fait tous les ans à Marseille, et c'est vrai que j'étais avec Christophe, Sylvie et Carole, et on était justement allés interroger toutes ces femmes kurdes en leur demandant ce qui leur manquait dans l'accès aux soins. Et elles nous disaient que c'était la barrière de la langue, que le fait de ne pas pouvoir parler librement chez le médecin, c'était très compliqué et que c'est difficile d'emmener quelqu'un pour traduire des problèmes, surtout pour les femmes, pour traduire des problèmes gynéco, en fait. C'est vrai que c'est une énorme barrière. Moi, je suis d'origine kurde, donc forcément, je parle le kurde. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la population kurde et turque du quartier, il y a justement cette barrière d'accès aux soins. Donc l'avantage, c'est qu'on pourra proposer de la traduction et permettre à ces personnes d'avoir un accès aux soins comme tout le monde, malgré cette barrière de la langue.
Nous, notre but, c'est d'être accessible pour tout le monde. Donc, on mettra en place un système d'interprétariat. Il y a de l'interprétariat téléphonique, s'il faut. Il y a la question de l'accès aux soins, donc l'accès aux droits santé. Il y a aussi potentiellement beaucoup de gens qui ont du mal à renouveler leur CMU, leurs droits. C'est pour ça qu'on aura aussi une assistante sociale qui pourra aider à la réouverture des droits. Mais malheureusement, souvent, on croit que c'est que ça, le problème de l'accès aux soins, alors qu'en fait, c'est pas que ça. La médiation santé, c'est pas simplement une personne, une fonction. Ça peut être un projet global de lieu, c'est-à-dire d'être avant tout dans l'accueil et qu'il y ait des gens qui viennent certes pour voir le médecin, mais aussi qui puissent être accueillis en bas pour discuter de ce qui se passe dans leur vie et pour discuter de la difficulté qu'ils ont à avoir un rendez-vous, à accéder simplement à d'autres lieux de soins. Et nous, notre but, c'est de les soutenir sur ces démarches-là.
On ne veut pas que la salle d'attente, ce soit qu'une salle d'attente conventionnelle. On veut que ce soit un lieu de vie où les gens puissent venir, échanger, faire des petits groupes avec plusieurs personnes, disons des petits groupes de femmes, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on veut vraiment que ce soit un lieu de vie aussi.
Le but premier, c'est de répondre aussi aux besoins des habitants. Et on sait que ce besoin-là de consultation de médecine générale, il est important. Mais de aussi penser avec les habitants du quartier une autre forme de soins. Et peut-être voilà, de voir en quelle mesure, à un moment, ce n'est pas plus thérapeutique d'avoir des espaces collectifs où on va discuter ensemble de c'est quoi le diabète, c'est quoi une maladie chronique, plutôt que de recevoir à la suite 10 personnes qui viennent pour renouveler leur ordonnance de diabète, quoi. Voilà, moi, je me rends compte, en tout cas au niveau personnel, en tant que médecin, que finalement, le médicament, en fait, ça devient un petit peu la monnaie d'échange, carte vitale contre ordonnance, argent contre ordonnance. Et c'est finalement très secondaire. Et c'est malheureusement ce qu'on est souvent amené à faire dans des consultations qui sont courtes, dans des consultations dans des contextes où on est payé à l'acte aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, un médecin payé à l'acte, il va avoir tous les mois quelqu'un qui a une maladie chronique, tous les mois un quart d'heure pour lui renouveler son ordonnance. Alors, bien évidemment, je pense qu'il y a énormément de médecins qui sont seuls dans leur cabinet et qui vont prendre plus de temps quand il faut avec ces personnes-là. Mais nous, on croit que, par exemple, un patient, il a peut-être besoin de voir qu'une fois ou deux fois ou trois fois dans l'année un médecin. Et que, par contre, l'idée qu'ils viennent tous les mois ici discuter avec d'autres patients, échanger leur savoir sur le savoir qu'ils ont acquis, eux, de leur maladie, qui est souvent mais beaucoup plus importante que moi, le petit savoir que je vais avoir du diabète, parce que finalement, je ne suis pas diabétique. J'ai appris le truc dans les bouquins. J'ai des recommandations à suivre, mais chaque personne est unique. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'être au maximum dans un échange des savoirs et à re-questionner aussi le savoir médical. Et nous, en tant que médecins, on est aussi en demande d'échange de savoir là-dessus. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse aussi énormément si j'ai des matinées où je vais pouvoir discuter avec des gens d'ici de des savoirs parfois ancestraux qu'ils ont sur comment on soigne une grippe quand on vient des Comores et comment ça se fait que là, historiquement, globalement, on dit aux gens, vous êtes malade, allez chez le médecin, et que ce soit aux gens de s'adapter aux recommandations du système de santé français comme il est pensé. Voilà, à quel moment on s'ouvre un peu, à quel moment on ne peut pas aussi être plutôt dans une rencontre, un échange de savoir sur ces sujets-là, quoi. C'est aussi un collectif en création. Alors à la fois, c'est super chouette, c'est super vivant. On est dans un débat à la fois de trucs très logistiques et puis dans un débat d'idées. Et puis des fois, les deux se mélangent. En fait, on réfléchit aussi sur notre gouvernance et sur notre fonctionnement. Voilà, je ne sais pas comment on peut le nommer. Une autogestion, gouvernance participative, leadership partagé. On n'a pas encore vraiment donné de définition. Le fait est qu'on, du coup, là, on est en train aussi d'apprendre, d'intégrer aussi les habitants dans les processus décisionnels du lieu, de chercher ensemble des outils d'aide à la décision. Parce qu'il n'y a pas de chef, en fait. Il va y avoir un gestionnaire, mais qui n'est pas chef. On a des salaires fixes. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré en fonction de l'acte. On n'a pas tous des salaires différents en fonction du nombre d'actes qu'on a fait, tout ça. On essaye d'être sur l'équité salariale, c'est-à-dire d'être sur un minimum de différence de salaire entre les professionnels qui vont intervenir dans le centre de santé. On est sur des salaires, en tout cas pour les médecins, qui ne correspondent pas du tout à la moyenne nationale du salariat d'un médecin. Mais c'est aussi parce qu'on est prêt à cette diminution de salaire pour pouvoir être dans ces ambiances-là de travail. Nous, on est pour une répartition du pouvoir et du coup aussi une répartition de la rémunération. Après, il y a nos idées et puis il y a la réalité. Et là, on en est à un moment un peu charnière parce que le but, c'est d'ouvrir le 2 janvier. On a été extrêmement soutenus, comme d'habitude, sur de l'investissement. Du coup, l'équilibre financier, il va aussi énormément dépendre de qui va venir quand, de la fréquentation des lieux. Donc, on verra le 2 janvier. Probablement, comme dans tout lieu qui ouvre, au début, les consultes, elles ne vont pas être complètement pleines. On pense que ça va potentiellement rapidement se remplir, mais on verra.
C'est immense. Moi, c'était ça. C'est l'immensité du bâtiment et des pièces.
Moi, c'était aussi l'immensité, le côté vraiment magnifique des peintures murales et tout, et à la fois un petit peu d'anxiété sur comment ça va devenir un lieu un peu cosy. La maison, elle a été construite, donc on disait fin du 18e. Fin 19e, début du 20e. Et c'était en fait des grands propriétaires. C'est l'époque, et il y en a dans tous les quartiers nord, hein, des vieilles bastides comme ça. C'est l'époque où c'était des maisons, des lieux de villégiature. En fait, les gens, ils allaient travailler en ville, dans le centre-ville de Marseille, puis ils venaient passer le week-end ici, dans leur maison à la campagne, quoi. Et puis du coup, avec la construction des cités et tout, c'est des maisons à l'époque, ils avaient tous les champs, il y avait même des vignobles autour, tout ça. Et puis petit à petit, les propriétaires ont dû revendre. Alors il y a des fois où ça a été même obligatoire, hein, de revendre des bouts de parcelles à la ville pour construire les barres d'immeubles autour. Et donc cette maison, c'était une des rares qui était encore... alors elle était encore habitée, je crois, il y a peut-être 20 ans. 10, 20 ans, hein, mais même moins, hein. Je pense même il y a 10 ans, en fait, elle était habitée, mais pas H24. C'était un lieu où le propriétaire, donc privé, venait régulièrement. Il y a une maison de gardien, donc il y avait un gardien qui habite là, et je pense que c'est grâce à lui que la maison, elle a pu être aussi bien conservée, parce que quand on est arrivé dedans, voilà, il y avait quelques choses dégradées, mais franchement, elle était quand même en super bon état. Et du coup, cette maison, elle a été rachetée très récemment dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Et par contre, c'est nous qui avons investi avec les subventions qu'on a eues pour retaper la bastide. Et donc, on est arrivé à la fois dans une bastide magnifique avec des peintures incroyables, début du siècle, et qui était vraiment une maison de maître. Et on s'est dit, à la fois, c'est super chouette parce qu'on veut que ce lieu de soins, ce soit pas un lieu super blanc, super qui fasse trop hospitalier, mais à la fois, il faut quand même que ce soit un lieu qui puisse recevoir du public et un lieu de soins. Donc en fait, le but là, de la rénovation, ça a été de le rendre accessible pour du lieu de soins, mais en conservant au maximum l'existant et que les gens, quand ils rentrent, ils n'ont pas l'impression de rentrer dans un hôpital, qu'ils aient aussi l'impression de rentrer dans une maison. L'autre enjeu aussi, on a fait un boulot avec les anthropologues du LASA sur la question de la participation des habitants et de penser les outils du participatif dans un lieu comme ça. Mais du coup, il y a aussi un travail sur les représentations du lieu que les gens avaient. Et sur notamment le nom, hein, le nom qu'on va donner, là, c'est les gens du quartier qui nous ont dit qu'il fallait garder le mot château, parce que cette maison, tout le monde l'appelle le château dans le quartier depuis des années, et que c'est pour ça qu'on va s'appeler le château en santé. Et ce lieu-là, en fait, il fait flipper beaucoup de gens à la base. Donc il y a ce travail-là aussi à faire, parce que pour tous les enfants, c'est un château hanté. Il y a plein d'histoires qui circulent sur une dame blanche qui sortait à son balcon. C'est un château qui a été gardé par le gardien ces derniers temps. Mais du coup, c'était aussi un espace où on n'avait pas le droit de rentrer. Et un espace un petit peu, un îlot complètement indépendant de tout le reste du quartier. Et donc nous, on trouve ça super chouette de redonner accès au public à ce lieu-là. Et à la fois, il y a un boulot aussi à faire sur les représentations, parce que les enfants qui sont venus dans les portes ouvertes, ils se faisaient des frayeurs à hurler. Et avant de venir le visiter, les écoles, elles ont vachement participé. Donc dans toutes les classes, ils ont eu des ateliers dessins. Ils ont tous dessiné des châteaux hantés avec les fantômes, avec tout ça. ils sont venus le visiter. Donc il y en a plein qui ont dit « Ah ouais, c'est horrible !» Et puis il y en a plein qui ont dit « Ah, mais je croyais que c'était hanté, qui ont été très étonnés. » Et là, l'enjeu, c'est de leur refaire visiter maintenant et puis de voir quelle vision ils ont du lieu et puis comment ils vont venir voir le docteur dans cet endroit qui, pour eux, a toujours été hanté.